Bonjour à toutes et à tous, il est 12h30 sur France Culture. Et tout de suite, c'est l'heure du journal de la rédaction présenté par Anne Fauquemberg. Bonjour Anne.
Bonjour Maëlys, bonjour à tous. Le gouvernement italien de Matteo Salvini obtient la confiance du Sénat et parvient à faire passer un nouveau décret anti-migrants. Le texte renforce en particulier les sanctions contre les navires humanitaires qui transportent des migrants. Nous serons en direct avec Marie Duhamel à Rome au début de ce journal. Est-ce un traître ou un homme politique du futur? À Rome, toujours, la classe politique s'agite après la nomination de Sandro Gozi, ancien secrétaire d'État italien, nommé au cabinet d'Édouard Philippe en France. Décryptage avec Nicolas Bellu. Dans un instant. Un lourd silence ce midi au Cachemire, au lendemain de la révocation historique de l'autonomie constitutionnelle de la région par New Delhi. Les anciens dirigeants locaux du territoire ont aussi été placés en détention. Précision de Sébastien Farcy à suivre. Les circonstances restent floues autour de la mort d'un maire à Signes dans le Var, mais l'émotion est vive ce midi. Un maire tué dans l'exercice de ses prérogatives à quelques mois des municipales. Les explications à venir avec Antoine Marette. Et puis, nous ferons le point sur la stratégie de la mairie de Paris pour lutter contre les risques de pollution au plomb autour de la cathédrale Notre-Dame. Au sommaire de la grande table d'été, Maëlys Bessery.
On va parler du festival des rencontres d'Arles autour de l'un des thèmes, construire l'image, et nous ferons le portrait du photographe suisse Christian Lutz.
Merci Maëlys, et à tout à l'heure, 12h45. Quelques semaines après l'affaire du navire humanitaire Sea-Watch, dont la capitaine, l'allemande Carola Rackete, avait accosté dans le port italien de Lampedusa contre l'avis des autorités italiennes, Rome durcit sa législation ce midi. Un décret anti-migrant vient d'obtenir la confiance du Sénat. Il entrera en vigueur dès demain. Bonjour Marie Duhamel. Marie Duhamel ne nous entend pas. Nous reviendrons sur ce décret anti-migrant dans quelques instants. Toujours à Rome, c'est une nomination qui agite une partie de la classe politique en Italie. La semaine dernière, l'ancien secrétaire d'État aux affaires européennes, Sandro Gozi, a été nommé au cabinet d'Édouard Philippe en France. L'Italien devient conseiller du Premier ministre français. Bonjour Nicolas Bellu.
Bonjour Anne.
Matignon a beau avoir rappelé l'engagement pro-Macron de Sandro Gozi à l'occasion des dernières européennes. À Rome, donc, il y a un parfum de scandale car un politique ne pourrait pas travailler pour deux pays différents successivement.
Oui, Sandro Gozi est un traître pour le leader du mouvement 5 étoiles, Luigi Di Maio. Sandro Gozi représente peut-être l'homme politique européen du futur, se demandait hier l'éditorialiste de Bloomberg, Leonid Berchitsky. Vous avez là deux façons de raisonner et d'interpréter qui sont aux antipodes. Les intérêts entre l'Italie et la France divergent, tu sers l'État italien et à un certain point tu le trahis et tu vas t'enrôler dans les rangs d'un autre gouvernement. Avec ces mots, Luigi Di Maio fait le portrait d'un mercenaire. Il faudrait le déchoir de sa nationalité. Le petit parti d'extrême droite Fratelli d'Italia a même lancé une pétition en ce sens. Sandro Gozi a certes été au gouvernement de Matteo Renzi jusqu'à l'arrivée du pouvoir du mouvement 5 étoiles et de la Ligue, mais il s'est engagé sous la bannière de la République en marche aux élections européennes. C'est d'ailleurs lui qui avait proposé la constitution de listes réellement transnationales. L'idée avait été abandonnée, mais Sandro Gozi a tout de même porté la parole macronienne en Europe. Donc cette nomination fait aussi sens. Elle correspond à une façon de voir l'Europe pour cet ancien proche de Romano Prodi. Il a été son collaborateur à la Commission européenne.
Il est donc un ennemi politique direct des populistes italiens.
Et oui, et c'est là un prolongement des élections européennes et du débat entre nationalistes et progressistes. Sandro Gozi a d'ailleurs été élu, mais en 22e place. Il siégera lorsque les Britanniques auront quitté le Parlement européen. Sa mission auprès d'Édouard Philippe est donc temporaire, il patiente auprès du Premier ministre. Évidemment, sa connaissance des arcanes européennes sera précieuse pour la France, d'autant plus que de nombreux élus de La République En Marche ne les connaissent pas.
Merci Nicolas Bellu pour vos précisions. Et nous avons retrouvé Marie Duhamel en direct de Rome. Bonjour Marie.
Bonjour.
Nous parlions donc à l'instant de ce décret anti-migrant qui vient d'obtenir la confiance du Sénat et qui entrera en vigueur dès demain. C'est un motif de satisfaction pour le Premier ministre Matteo Salvini et son parti d'extrême droite, la Ligue. Le décret renforce les sanctions contre les navires humanitaires.
Oui, Matteo Salvini parle d'une victoire pour l'Italie, un pays désormais plus sûr, mais c'est bien un succès personnel qu'enregistre le ministre de l'Intérieur. Ni les appels de l'Église à respecter les migrants, ni les sit-ins organisés par la gauche n'ont entamé le vote, ni d'ailleurs l'abstention d'une frange d'extrême droite, jugeant le texte trop mou. Matteo Salvini emporte la majorité presque absolue à une petite voix près. Le mouvement 5 étoiles s'était un temps rebellé avant de voter pour le texte, pour sauver, a-t-il dit, le gouvernement. Alors que contient ce décret ? D'abord et avant tout des pouvoirs renforcés pour le ministre de l'Intérieur, justement. Plus question pour Matteo Salvini de revivre l'affront que lui a fait subir Carlotta Rackete, la capitaine du Sea-Watch. À partir de maintenant, le ministre italien de l'Intérieur pourra seul décider d'interdire les eaux italiennes aux navires portant secours aux migrants, même pour y transiter, s'il estime que ce bateau favorise l'immigration clandestine, et son avis fera loi. Il pourra également saisir les navires d'ONG et infliger entre 150 000 et 1 million d'euros d'amende aux commandants de bord. Et puis enfin, outre toutes ces mesures anti-immigration, les forces de l'ordre obtiennent aujourd'hui plus de pouvoir lors des manifestations sportives notamment. Les peines de se manifestant le visage masqué sont durcies de 2 à 3 ans de prison, 4 ans pour les personnes se présentant avec, par exemple, des battes de baseball.
Merci Marie Duhamel pour vos précisions. Vous étiez en direct de Rome. À Londres, le scénario d'un Brexit sans accord est de plus en plus privilégié. L'Union européenne rejette l'idée de négociations avec le gouvernement britannique pour modifier l'accord conclu avec Theresa May. Et le gouvernement britannique répète qu'il vaut mieux pas d'accord qu'un mauvais accord. D'ailleurs, Londres commence à se préparer pour un avenir post-Brexit. Les Britanniques se détournent de leurs partenaires européens et se rapprochent ouvertement des États-Unis. Les derniers développements avec notre correspondante Aude Soufi.
Il n'a pas encore mis les pieds à Paris, Berlin ou Bruxelles, mais 2 semaines après sa nomination, le ministre britannique des Affaires étrangères traverse l'Atlantique. Dominic Raab entame aujourd'hui une tournée en Amérique du Nord avec une étape à Washington demain. Dans son communiqué, les États-Unis sont décrits comme le plus grand allié du Royaume-Uni et le pays avec lequel il a le plus d'échanges économiques. Londres espère pouvoir conclure un accord commercial de grande ampleur avec son partenaire américain après le Brexit. Et comme preuve de bonne volonté, de rapprochement, d'alignement, diront certains, le gouvernement britannique a annoncé hier sa participation à une mission de sécurité maritime dans le détroit d'Ormuz, conduite par les États-Unis. Le mois dernier, il disait pourtant envisager une coalition dans la région sous l'égide européenne, préférant tenter de désamorcer la situation avec l'Iran que d'attiser les tensions. Mais depuis, le locataire de Downing Street a changé, la stratégie politique aussi. En mai 2018, Boris Johnson, alors ministre des Affaires étrangères, s'était rendu à Washington pour tenter, en vain, de convaincre Donald Trump de rester dans l'accord sur le nucléaire iranien. 14 mois plus tard, il est Premier ministre et à 87 jours du divorce avec l'Union européenne, sa priorité n'est plus diplomatique, mais économique.
Correspondance à Londres, signée Aude Soufi. Au lendemain de la grève générale organisée dans l'ex-colonie britannique de Hong Kong, Pékin affiche de nouveau sa fermeté ce midi. Conférence de presse au Bureau des Affaires régionales. Ne sous-estimez jamais la ferme détermination et la puissance immense du gouvernement central, a dit la représentante de la Chine. Dans le même temps, la police hongkongaise annonce les chiffres des arrestations. 148 personnes interpellées hier en marge des manifestations, des personnes âgées de 13 à 63 ans. Une chape de plomb s'est abattue sur le Jammu et Cachemire, la partie indienne de la région montagneuse du Cachemire. Hier, le gouvernement de New Delhi a décidé de révoquer l'autonomie dont bénéficiait ce territoire depuis 70 ans. Réforme très controversée dans le pays car elle n'est pas sans risque géopolitique. D'ailleurs, la région subit toujours un couvre-feu draconien ce matin. Couvre-feu qui empêche les habitants de s'exprimer. C'est une correspondance à New Delhi de Sébastien Farcy.
L'atmosphère est tendue car le gouvernement contraint les Cachemiriens au silence. Un couvre-feu est imposé dans la région. Les rues sont vides, seulement barrées de checkpoints militaires. Toutes les communications sont coupées depuis hier matin, que ce soit les téléphones portables ou fixes. Une mesure extrême et rare, même pour cette région habituée à vivre en état de siège. Impossible donc d'entendre l'opinion des habitants qui sont pourtant les premiers concernés par ce changement radical. Enfin, les dirigeants des partis locaux, dont 2 anciens chefs du gouvernement régional, ont été placés en détention hier soir. Les seuls Cachemiriens qui peuvent s'exprimer en fait sont ceux qui vivent en dehors de cet état et ils dénoncent l'attitude dictatoriale du gouvernement. Ce gouvernement, lui, assure que l'autonomie du Cachemire était une anomalie et que l'intégration de la région dans la fédération accélérera son développement. Toutefois, l'imposer sans consulter la population risque au contraire de faire le jeu des indépendantistes et on peut s'attendre à une flambée de violence quand les restrictions de mouvement seront levées.
Sébastien Farcy, le correspondant de RFI pour France Culture. Une enquête a été ouverte dans le Var après le décès d'un maire hier sur le territoire de sa commune de Signes, près de Toulon. Jean-Michel Mathieu a été renversé par un fourgon qui venait de déposer illégalement des gravats sur un chemin privé. Le drame s'est produit alors que l'élu, âgé de 76 ans, venait de dire à deux ouvriers du bâtiment de recharger leurs déchets dans leur véhicule et d'attendre la gendarmerie. Deux ouvriers qui se sont exécutés pour les gravats mais qui ont fait une manœuvre avec leur fourgon et c'est pendant celle-ci que le maire a été percuté. L'enquête devra donc déterminer s'il s'agit d'un accident ou d'un homicide volontaire. Les deux ouvriers sont actuellement en garde à vue. Bonjour Antoine Maretz.
Bonjour.
Cet événement a évidemment suscité beaucoup d'émotions dans le département du Var et au-delà.
Effectivement, les drapeaux seront en berne aujourd'hui dans 153 communes du Var pour rendre hommage à Jean-Michel Mathieu. L'homme était maire de Signes depuis 1983. Le président de l'association des maires du Var, Jean-Pierre Véran, se dit effondré. Pour Jean-Pierre Véran, la République est en deuil. Mourir dans l'exercice de ses fonctions, c'est inacceptable. Mais les réactions ne s'arrêtent pas au niveau local, ni même parmi les maires. Au nom de l'Assemblée nationale, j'adresse avec tristesse et émotion à la famille et aux proches du maire de Signes mes sincères condoléances, tweet le président de l'Assemblée, Richard Ferrand. Le président de LR, Jean Leonetti, affiche son respect pour la fonction des maires de petites communes qui assument au quotidien une mission républicaine de proximité. Hommage également du secrétaire national du PCF, Fabien Roussel. Être maire d'un village et mourir dans l'exercice de ses fonctions ne devrait jamais arriver. Plus rien n'est respecté. Alors pourquoi une telle émotion alors que l'enquête n'a pas encore déterminé le caractère volontaire ou non de l'homicide? D'abord, il y a un contexte. On est à 7 mois des municipales et les enjeux sont considérables. Un parti inexistant au niveau municipal, LREM, va tenter de faire son apparition localement. À l'inverse, les partis historiques en déclin depuis la présidentielle vont tout faire pour conserver leur fief. Ils misent notamment sur la prime aux sortants et ils peuvent compter sur une règle qui ne se dément pas. Le maire reste l'élu préféré des Français. Selon une récente enquête de l'Observatoire de la démocratie parue le mois dernier, 6 Français sur 10 espèrent que leur maire se représentera en 2020. Les trois quarts d'entre eux jugent positivement le travail réalisé par l'équipe municipale de leur commune depuis 2014. Ce lien qui unit les Français à leur maire est stable depuis 10 ans. Et il est identique, quelle que soit la taille de la ville, la catégorie socio-professionnelle des sondés ou leur étiquette politique, autant de chiffres qui expliquent sans doute en partie l'émotion suscitée par la mort du maire de Signes dans le cadre de ses fonctions.
Merci Antoine Maretz pour vos précisions. Les maires qui ont également manifesté ce matin en Occitanie, dans le département de l'Ariège, une centaine d'entre eux se sont rassemblés devant la préfecture de région pour réclamer le retrait des ours dans les Pyrénées. 2019 est une année record. Il y a eu presque 3 fois plus d'attaques que l'an passé. 638 brebis ont été tuées. Les élus sont donc venus montrer leur soutien aux éleveurs, comme Patrick Lafont, le maire de Bordes-Huchin à la frontière espagnole.
Aujourd'hui, on a des dégâts sur toutes les montagnes, sur toutes les estives, qui font que oui, là, la situation est tendue. Oui, il y avait les éleveurs et les bergers. Et on est dans une situation aujourd'hui où on ne maîtrise plus rien sur nos communes. On nous a imposé cette réintroduction. Nous, on signale qu'il va y avoir des problèmes. Bon, les problèmes par rapport à la prédation, on les a déjà. Mais des problèmes humains, bien sûr, ça va impacter toute l'économie qu'on a sur notre territoire. Ça impacte déjà le pastoralisme. Demain, ça va impacter l'économie touristique. J'en suis persuadé. Voilà, ouais, on est très inquiet, ouais. Et on veut alerter aujourd'hui les mesures de protection aujourd'hui qu'on veut nous imposer, que l'État veut nous imposer, ne marche pas. Des chiens de protection, des parcs de contention, ça marche pas. On en a la preuve. Aujourd'hui, il y a une trop d'ours concentrés sur le même territoire. Il faut prendre des mesures pour en retirer. Moi, je le dis clairement aujourd'hui, c'est le retrait qui réglera la problématique. C'est tout.
Des propos recueillis par Emmeline Ferry. À Paris, l'inquiétude reste vive autour de la cathédrale Notre-Dame où 250 tonnes de plomb sont parties en fumée en avril dernier lors de l'incendie de l'édifice. Hier, le collectif d'associations et de syndicalistes qui s'est créé récemment a donné une conférence de presse. Inquiet par les risques de contamination au plomb, il demande une mise sous cloche du bâtiment. La mairie de Paris leur a répondu. Ilan Malka, bonjour.
Bonjour Anne.
Pas besoin d'un tel dispositif selon la mairie de Paris, mais la vigilance reste de mise.
Mettre Notre-Dame sous cloche, cela pose un problème de faisabilité du point de vue technique et financier. Ce sont les mots d'Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la mairie de Paris. Hier, c'est l'adjointe à la santé de la ville, Anne Souiri, qui s'exprimait sur le sujet. Pour elle, la mise sous cloche du chantier n'est pas spécialement adaptée à la situation et pas pérenne. La municipalité essaye de montrer néanmoins qu'elle a la situation en main. Dès demain, une couche de gel sera déposée pour 3 jours dans les rues adjacentes à la cathédrale afin de désincruster les particules de plomb qui ont pu se déposer. Au sujet des établissements scolaires, la ville, qui ne gère que les crèches et les écoles primaires, rappelle que des tests ont été faits partout. 3 écoles ont présenté des taux de plomb supérieurs à 1000 microgrammes par mètre carré. Elles feront l'objet d'un nettoiement approfondi, rappelle Emmanuel Grégoire. Il n'y a pas encore de date annoncée pour leur réouverture. Elles ne pourront de toute façon pas rouvrir avant d'avoir atteint les seuils recommandés par l'Agence régionale de santé. Quant au chantier, il a été suspendu fin juillet. Il doit reprendre progressivement à partir de la semaine du 12 août. En attendant, les habitants du périmètre défini par l'Agence régionale de santé vont être invités à réaliser une plombémie par mesure de précaution.
Merci Ilan Malka pour vos précisions. La météo, un temps orageux sur une grande partie du pays. 9 départements placés en vigilance orange pour orages violents. Les orages vont toucher dès 13h la Haute-Loire et la Loire avant de s'étendre vers le Rhône, l'Ain, l'Isère et la Haute-Savoie. Les températures de 20 à Brest jusqu'à 30 à Marseille. Cet après-midi, il fera 23 à Paris, 24 à Lille et 27 à Strasbourg. Ce journal a été préparé avec Benjamin Ducy.